France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 1876, naissait à Paris la Société d'autopsie mutuelle. Cette société savante, défenseuse d'un matérialisme scientifique radical, voulait prouver par l'autopsie des cerveaux de ses membres défunts l'origine physiologique de leur grandeur et de leur intelligence. Si les autopsies réalisées ont donné des résultats décevants, cette société posa les premières pierres d'une pratique aujourd'hui encore active, le don du corps à la science. Science Chrono fait aujourd'hui l'autopsie de cette société à la réputation sulfureuse, témoin d'un temps où le mot science rimait avec combat politique. Bonjour Arnaud Hurel.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes historien, ingénieur de recherche au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'histoire de cette société d'autopsie mutuelle qui témoigne des ambiguïtés parfois, qui marquent l'histoire des sciences. Avant de nous plonger dans cette discussion, je vous annonce le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous recevrons l'archéologue Chloé Andrieux qui signe chez Alary Éditions le livre « Les Mayas n'ont pas disparu ». On s'interrogera sur la fascination occidentale pour l'effondrement de la civilisation maya et on verra les rouages qui ont contribué à fabriquer cette légende des mondes perdus qu'on ne finit pas de retrouver. On se demandera également comment l'archéologie et l'histoire peuvent nous aider à sortir de ce cliché d'une civilisation disparue. Mais avant de rejoindre l'Amérique centrale, on revient en France au 19e siècle. Je le disais à l'instant, en 1876, un collectif de savants et de notables créait la Société d'autopsie mutuelle. Alors avant d'en venir à leurs objectifs scientifiques, j'aimerais, Arnaud Hurel, que vous nous expliquiez dans quel terreau intellectuel et philosophique cette société a fleuri.
Terreau intellectuel et philosophique, alors terreau intellectuel, c'est d'abord un groupe essentiellement de médecins, donc ce qui est important, je crois, de médecins, mais aussi d'anthropologues biologiques. Et d'un point de vue philosophique, c'est le terreau, c'est le matérialisme scientifique. Alors, le terme de matérialisme scientifique, je l'emploie parce qu'il le revendique, mais faut pas imaginer une association à laquelle on adhère. C'est de fait un groupe qui existe, qui se constitue, on va dire, dans le dernier quart du 19e siècle, qui est très actif, qui prend des formes très diverses, mais qui a, en fait, bricole une philosophie qui est un peu héritée des Lumières, un peu héritée de la philosophie allemande du début du 19e siècle, mais aussi tout cela matiné de théories autour de l'évolution et d'un évolutionnisme plutôt que de véritables théories d'évolution.
Alors vous le dites, c'est foisonnant, c'est buissonnant comme réflexion, c'est un peu touffu, parfois un peu confus. Alors si on devait quand même énoncer quelques grands principes de ce matérialisme scientifique, quels seraient-ils ?
Bah, déjà, il y a le principe d'unité de la matière, c'est-à-dire qu'en fait, le corps n'est que de la matière, la pensée n'est finalement qu'une action de la matière. Donc c'est le premier élément. Et puis ensuite, il y a l'unité de la science. L'unité de la science, c'est-à-dire que finalement, il n'y a qu'un mode de connaissance. Ce mode de connaissance, c'est la science. Et tous les autres modes de connaissance relèvent au mieux de la métaphysique, mais en tout cas sont suspects, voire à combattre.
Voilà, ces savants, ils sont très très opposés à la religion et à toute idée métaphysique, comme vous le dites.
Ah oui, ils sont tellement opposés à toute idée métaphysique qu'ils deviennent même des adversaires du positivisme. Lorsque le positivisme, qui les avait un temps séduits, bascule vers une espèce de déisme, évidemment, ils deviennent des adversaires.
Ça vaudrait le coup d'ailleurs de faire une émission sur Auguste Comte et le positivisme. On va garder l'idée en tête et puis peut-être que ce sera vous qui reviendrez nous en parler d'ailleurs. Ces réflexions, en tout cas, des matérialistes scientifiques, elles portent sur quel champ scientifique en particulier ? Est-ce que c'est tous les champs qui sont concernés ou bien la physiologie en particulier est la cible principale ?
Alors, à l'origine, c'est d'abord l'homme, au sens anthropologique du terme, mais anthropologie physique, bien évidemment. Mais c'est l'homme actuel comme l'homme du passé. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont aussi, en particulier au sein de la Société d'anthropologie de Paris, qui est le vaisseau amiral de l'ensemble du dispositif, vont contribuer à faire reconnaître la préhistoire. Donc, et s'intéresser aux premières humanités. Donc, il s'intéresse vraiment donc à l'homme dans toute son histoire et sa préhistoire, mais ils vont aussi aller, braconner dans d'autres domaines. André Lefebvre, qui est un des principaux animateurs, est un philosophe qui a un grand succès de librairie avec des livres de philosophie, mais on va retrouver un linguiste comme Ovelac, Abel Ovelac, qui considère que la linguistique est une science naturelle. Donc, vous voyez, il y a finalement des gens qui ont quand même des cursus assez variés, mais vraiment le cœur, ce sont les anthropologues.
Et vous parlez de la Société d'anthropologie qui est justement en première ligne. Ça, cette société, on peut peut-être la décrire parce que elle brasse un grand nombre de grands noms de l'histoire des sciences de cette deuxième moitié du 19e siècle. Quelles étaient les fonctions? Parce que l'anthropologie à l'époque, il faut le rappeler, était très très différente de celle qu'on pratique aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Donc la Société d'anthropologie de Paris naît en 1859. Elle naît de la volonté de Paul Broca, médecin, chirurgien, professeur de médecine, grand anthropologue, roi de la classification en anthropologie, qui crée cette société parce qu'il a eu des problèmes au sein de la société de biologie. Il avait produit une communication sur la notion d'espèce et arrivé à des conclusions qui pouvaient intéresser l'homme et considérer qu'il y avait plusieurs espèces humaines. Mmh. Donc ça avait fait un petit scandale à la société de biologie. Donc il avait fini par créer sa propre société savante pour pouvoir s'exprimer très librement et rassembler autour de lui des chercheurs ayant le même type d'approche, enfin peut-être pas 100% sur la même ligne d'un point de vue philosophique, mais au moins revendiquant une certaine liberté de recherche. Et puis, c'est vrai que l'anthropologie, les sciences de l'homme au sens large, se développent dans la seconde partie du 19e siècle, donc il profite de ce mouvement.
Alors Arnaud Hurel, on parle de la Société d'anthropologie de Paris qui fait des petits, comme cette société d'autopsie mutuelle, un nom qu'on va décortiquer et disséquer, bien sûr. Quelle est l'idée de départ de cette société-là? Si on doit faire la genèse de ce projet-là, quelle est-elle?
Alors, si vous me permettez, je ne sais pas si c'est la Société d'anthropologie de Paris qui fait des petits. Je pense que c'est un groupe au sein de la Société d'anthropologie de Paris qui fait des petits. La Société d'anthropologie de Paris a vraiment recrute des gens d'horizons très divers. Certes, beaucoup de médecins parisiens, beaucoup de professeurs de la faculté de médecine, mais il y a quand même une vraie diversité. On trouve même des archéologues dedans. C'est ce groupe qui petit à petit prend de l'importance au sein de la Société d'anthropologie de Paris, qui va même en prendre le pouvoir, hein, le secrétaire général puis la présidence, donc va se constituer en groupe constitué, on va dire. Oui. C'est-à-dire va organiser un certain nombre de points d'ancrage, de lieux où ils vont se retrouver. Ça peut être des dîners, ça peut être des sociétés savantes, ça peut être des maisons d'édition, ça peut être des collections dans une maison d'édition, ça peut être un projet collectif comme une encyclopédie, un dictionnaire. Donc ce sont ces points d'ancrage qui permettent d'identifier ce groupe, à la fois en tant qu'individu, en faire la liste, mais aussi en tant qu'idée. Et on voit que finalement, ce groupe est de plus en plus restreint si on prend juste ceux que l'on va retrouver dans toutes ces structures et se limite à un peu moins d'une vingtaine de personnes. Mais ces personnes sont actives dans tous les domaines.
Très dynamique. Très dynamique et très efficace. Ils veulent du coup mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis marquer leur époque et marquer les idées de leur époque. Alors, cette société d'autopsie mutuelle, pourquoi cette vingtaine d'individus influents, notables, médecins, savants, se décident-ils à la créer?
Alors, pour différentes raisons. Déjà, leur méthode scientifique, c'est l'observation, l'expérimentation et la classification. Donc, toute l'anthropologie française, même au-delà de la France d'ailleurs, se construit au XIXe siècle sur cette idée de classification, avec tous les problèmes que cela peut poser lorsqu'on s'intéresse à l'homme, bien évidemment. Donc, première question, comment est-ce que l'on peut, par rapport à l'homme, passer du stade de la théorie à l'expérimentation? Et donc l'autopsie, les autopsies qui sont pratiquées au 19e siècle sont essentiellement des autopsies médicales, qui sont dues, médico-légales, mais essentiellement médicales, dans les hôpitaux. Et en fait, ce sont des sujets qui sont morts de maladie, et donc le corps a les stigmates de ces maladies. Or, eux, ce qu'ils voudraient, c'est trouver dans le corps, dans la physiologie, les traces de la psychologie, en réalité. Pour eux, la psychologie n'est qu'une branche de la physiologie, en réalité. Donc, ils vont essayer de chercher dans le corps, et en particulier dans le cerveau, des signes observables qui permettraient de comprendre la psychologie de la personne que l'on autopsie, de comprendre à quel point cette personne était savante, à quel point elle avait de l'humour, puisque c'est un des critères qu'ils retiennent. Et donc, ils vont se tourner vers des sujets sains, certes morts, mais des sujets qui sont morts non pas à l'issue d'une longue et douloureuse maladie, mais de manière un peu inattendue, et donc avec l'espoir que la pièce maîtresse, c'est-à-dire le cerveau, soit à peu près en bon état.
Quelles sont les conditions requises pour être sociétaire de cette société d'autopsie mutuelle?
une forme de générosité, c'est-à-dire être prêt à donner son corps à ses amis. Et c'est un acte qui est présenté comme étant scientifique, c'est-à-dire que je reconnais, en adhérant à la société d'autopsie mutuelle, le fait que peut-être que l'on pourra, en parlant l'autopsie de mon corps et en particulier de l'étude de mon cerveau, prévenir certaines maladies héréditaires qui pourraient toucher ma descendance. Bon, ça c'est ce qui est mis en avant. Donc on peut considérer que c'est l'aspect scientifique du dispositif. En réalité, on voit très vite que c'est d'abord un engagement philosophique, un engagement matérialiste qui est mis en avant. Et puis il y a peut-être quelque chose de plus conjoncturel, c'est-à-dire que le 19e siècle est un siècle où dans toute l'Europe et même au-delà, on a tendance à surjouer la pompe funèbre, c'est-à-dire que la mort occupe une place tout à fait différente dans la société, dans les vies personnelles des individus, et donc ils veulent retirer au monde métaphysique, à l'Église catholique en particulier en France, le monopole des funérailles, et donc faire comprendre à la société que l'on peut mourir dignement et être enterré tout aussi dignement, mais de façon civile. Donc cette autopsie participe à cela, parce qu'en fait il y a, c'est un moyen aussi pour pas violer les consciences, mais parfois, en tout cas, violer un carcan social et s'opposer souvent aux familles, que de dire bah, ce corps, finalement, pas de sensiblerie, c'est jamais que de la matière, et on va l'ouvrir, on va regarder, vous verrez, ça sera très utile. Alors, à tout le monde.
Chacun des membres, finalement, signe un testament en disant « je vous donne le droit à ouvrir ma boîte crânienne et puis aller farfouiller dans, dans cette boîte crânienne pour voir si ce cerveau, mon cerveau, est aussi important que l'est mon intelligence. »
Oui, oui. Alors, l'acte en fait, d'adhésion, au-delà de la cotisation, l'acte d'adhésion, c'est, et la cotisation, c'est pour financer les autopsies. L'acte d'adhésion, en fait, c'est le testament, et qui dit très clairement, je vous donne mon corps, mais qui dit aussi, méfiez-vous de la famille, c'est le sous-texte, si on peut dire, c'est-à-dire qu'en fait, méfiez-vous de la famille, c'est-à-dire que je vais faire deux testaments, j'en envoie un à la société d'autopsie mutuelle, et puis j'en donne un autre exemplaire à des amis proches, pas à la famille, parce que la famille risque de vouloir garder le corps et vouloir l'enterrer selon des normes sociales.
Parce qu'il y a des personnages éminents qui font don de leur corps à la science, ou du moins à cette société d'autopsie mutuelle, et qui voient leur famille finalement refuser ce don-là après leur mort.
Éminent ou non d'ailleurs, mais oui, il y a quelques têtes de gondole, si vous me permettez l'expression, il y a des noms qui sont mis en avant. Il y a surtout beaucoup d'échecs, hein. Vous savez qu'à la mort de Victor Hugo, ils se sont précipités pour rencontrer la famille, pour demander s'ils ne pouvaient pas récupérer le cerveau du grand homme, et évidemment, ils se sont étonnés de ne pas avoir de réponse. Et le docteur Gachet, par exemple, qui allait essayer de mobiliser tous les peintres de son réseau, pour les convaincre de rejoindre la société d'autopsie mutuelle que lui-même avait rejointe, n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, en revanche, il y a quelques noms, en particulier le général Federbe qui est mis en avant, ou Eugène Viollet-le-Duc, enfin, à l'époque est connu, mais sans doute moins célèbre que pour nous maintenant. Mais oui, il y a des problèmes. Alors, Viollet-le-Duc, le corps ne sera pas récupéré, il meurt à Lausanne, et donc l'état de décomposition fait qu'il n'est pas possible de le rapatrier. Quant au général Federbe, en réalité, il y a une pression à la fois de la famille et une pression de l'État lui-même, parce que c'est quand même le grand général républicain, l'homme de l'armée du Nord, l'homme de conquêtes coloniales en Afrique, et donc on veut célébrer au plus vite des obsèques nationales à Paris puis à Lille, et on imagine assez mal de célébrer des obsèques avec un corps auquel il manquerait la tête ou un morceau d'autres quelconque.
Est-ce qu'ils étudient d'autres membres justement d'autres parties du corps que le crâne et le cerveau?
Alors, quand ils font une autopsie, ils font une autopsie. Ils vont d'abord chercher la cause de la mort, mais en fait, c'est pour donner l'impression de faire vraiment un acte médical. Non, ce qui les intéresse, c'est vraiment le cerveau. Anne Carole a écrit un livre très intéressant sur Gambetta et sur ce corps qui a été démembré, et on trouve des morceaux un petit peu partout. Gambetta, un bras a été retiré également, mais c'est lié à la blessure qu'il avait eue et qui serait liée à sa mort. Voilà. Mais non, ce qui les intéresse, c'est le cerveau. ils sont matérialistes, mais si on veut être un tout petit peu provocateur à leur égard, on peut aussi considérer qu'ils ont une forme de foi, de croyance, de démarche presque assez
religieuse.
Oui, parce que finalement garder le cerveau dans du formol ou et puis l'exposer,
c'est une relique.
Oui. Ce sont des reliques. Ils sont exposés lors des expositions universelles, au stand de la Société d'anthropologie de Paris, de la Société d'autopsie mutuelle. Lorsque une société savante de province vient à Paris, on l'emmène voir le musée Broca et on leur demande non pas de s'agenouiller, mais on leur demande quand même de voir ces bocaux, se rendre compte à quel point il y a des gens importants qui ont donné leur cerveau et que ce serait bien qu'eux-mêmes pensent à donner le leur.
Alors Arnaud Hurel, en 1876, quand est créée cette société d'autopsie mutuelle, la presse est toute puissante, florissante. Est-ce que ça fait les choux gras, cette création? Est-ce que ça fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des réactions curieuses, des réactions d'immense défiance? Est-ce que ça crée un débat public?
Effectivement, il y a tout le panel des réactions possibles. Hein. Il y a tous ceux qui appartiennent, on va dire, au courant radical ou socialiste des débuts de la Troisième République sont évidemment très favorables, parce que de toute façon les promoteurs de cette société appartiennent à leur camp. D'ailleurs, certains d'entre eux sont des élus locaux ou sont à la Chambre. Le camp spiritualiste, évidemment, tourne ça en dérision. Parce que effectivement, ça peut paraître étrange de créer un club dont l'objectif est que ce club disparaisse lorsqu'on aura autopsié tous ses membres. Mais
c'est un peu contre-intuitif de compter sur la mort de ses sociétaires pour avancer.
Oui, que le succès repose sur la disparition en fait de l'ensemble. Mais il y a cette donnée sociale qui est que finalement en fait le nouveau rapport à la mort qui se construit au XIXe siècle redonne une place à l'Église sur la population. Et donc c'est lui retirer ses morts, c'est s'attaquer de toute façon également à l'Église. Donc là, de ce côté-là, il y a de vraies attaques ou des ricanements très forts. Mais toute la presse en parle. Et il n'est que de feuilleter la presse médicale, évidemment, pour voir à quel point les collègues médecins trouvent ça absolument formidable, parce qu'ils se disent on va obtenir des matériaux. Alors tout ça, c'est en 1876, au moment de l'annonce de la création.
Et là, on en vient maintenant à ce que pouvait donner l'un de ces rapports d'autopsie. Pour notre archive sonore de cette semaine, on a choisi un extrait, grâce à vous, des bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, paru en 1878. Dans cette communication sur l'autopsie de l'homme de lettres Louis Asseline, membre de la Société d'autopsie mutuelle, Henri Tullier décrit le cerveau de son confrère et la lecture vous est faite par Romain de Bec de Lièvre.
Asseline avait 49 ans au moment de sa mort. Le poids de son cerveau est donc très au-dessus de la moyenne. Les circonvolutions sont grosses et épaisses. Monsieur Broca, en voyant ce cerveau, me disait « Ce n'est pas un cerveau fin, les circonvolutions sont épaisses, presque grossières. » Chose remarquable, ce qui caractérisait l'intelligence d'Asseline était une finesse exquise, poussée jusqu'à la subtilité. On trouve sur ce cerveau la calotte, regardée comme un signe d'infériorité par Gratiolet. Chez les singes, en effet, la scissure pariéto-occipitale est profonde. Chez un gorille seulement, M. Broca a observé cette scissure profonde d'un côté, mais superficielle de l'autre. Cette scissure est souvent profonde chez la femme, ainsi que chez quelques hommes d'une médiocrité intellectuelle constatée. Dans le cerveau d'Asseline, les plis de passage pariéto-occipitaux sont profonds, surtout à gauche. Or, Asseline était d'une intelligence on ne peut plus distinguer et d'une érudition remarquable. Ce signe d'infériorité doit donc être mis à l'étude. Et on peut se demander devant ce cerveau, dont les parties antérieures sont si développées et correspondent à des facultés intellectuelles éminentes, si le développement des plis de passage pariéto-occipitaux ne correspondent pas à des facultés secondaires. La calotte crânienne est extrêmement mince. Ce n'est pas une régression sénile. Les dépressions cérébrales et les sillons vasculaires sont très marqués. On voit le jour à travers les os sur certains points, comme si la table interne avait été amincie par le grossissement du cerveau. La suture frontale n'est pas ossifiée entièrement, elle l'est moins que la suture pariéto-occipitale, qui ne l'est pas entièrement cependant. Faut-il attribuer cette particularité au travail et au grossissement incessant du cerveau? Il serait audacieux de l'affirmer. Il est bon cependant de poser la question et de se rappeler que sur le crâne de Pascal, la fontanelle antérieure n'était pas complètement ossifiée.
Voilà, Arnaud Hurel, vous nous avez suggéré la lecture de ce passage. En quoi est-il emblématique du style de cette société d'autopsie mutuelle?
Une réponse abrupte, ce serait de dire par la déception. À l'évidence, ils ne trouvent pas dans le cerveau d'Asseline, de Louis Asseline, ce qu'ils auraient aimé trouver. Donc il va falloir aller chercher des caractères qui permettraient d'imaginer à quel point, de rendre compte par la physiologie, à quel point cet individu était fin, cultivé, un véritable intellectuel. Donc on va jouer sur les sutures qui ne seraient pas tout à fait ossifiées, et donc peut-être que c'est la grosseur du cerveau, ce cerveau qui toute sa vie se serait développé, aurait continué de se développer parce que cet homme était d'une intelligence rare. Eh bien voilà, donc on essaie de trouver quelque chose. Mais c'est d'abord de la déception. Mmh. Alors, c'est de la déception parce que finalement, ce cerveau ressemble tellement aux autres.
Et ça, est-ce que ça signifie que de déception en déception, cette société finalement va avorter son projet et va limiter le nombre d'autopsies? Est-ce qu'on a une idée du nombre justement de cerveaux qui ont été autopsiés par cette société?
Alors c'est très difficile à établir parce qu'en fait c'est un petit peu comme les archives de la Société d'anthropologie de Paris, les archives de la Société d'autopsie mutuelle sont très lacunaires parce qu'elles ont subi des déménagements divers et variés, et puis il n'y avait pas une logique de constituer ces archives. Mais très tôt, en fait, l'un des animateurs, Laborde, qui va être à l'origine de pas mal d'autopsies, va dire qu'il est obligé de refaire son testament parce qu'on l'a perdu. Mmh. Comme de nombreux testaments. Donc on est 4-5 ans après la création de la Société d'autopsie mutuelle. Donc pour nous historiens, c'est assez difficile d'avoir un état tout à fait fiable. En revanche, on a à l'heure actuelle 127 testaments qui nous sont parvenus. Ça nous permet de nous rendre compte que finalement le tiers de ces testaments ont été établis entre 1876 et 1879, sachant que le dernier testament date de 1930. Mmh. Donc vous voyez, en fait,
après 15 ans, 16 ans après la suppression
bien,
et la disparition.
Bien après, bien après, en fait, là on est dans une logique juste de don de son corps à la science pour la recherche médicale, mmh. Donc et pas spécialement le cerveau dans une optique matérialiste. Ensuite, c'est une population qu'on voit très clairement comme étant essentiellement parisienne, à 80%. Oui. Mais ce sont des gens jeunes qui signent leur testament. La moyenne d'âge est de 46 ans.
Une espèce de fougue comme ça à la découverte et à la connaissance.
Oui, une exaltation, puis une croyance. Là aussi, on est dans le régime de croyance, dans le progrès, le progrès médical, dans la science médicale.
C'est important. Dans l'archive, on entendait parler de Louis-Pierre Gratiolet, on entendait le nom aussi de Paul Broca. Donc Gratiolet, c'est un anatomiste, un anthropologue éminent, spécialiste d'anatomie comparée, par exemple du cerveau des grands singes et des humains. Broca, on l'a déjà présenté. Quel rôle jouaient ces personnages-là? Est-ce qu'ils étaient là présents en tant que consultants de luxe? Est-ce qu'ils frayaient vraiment avec ces sociétaires de la Société d'autopsie mutuelle? Ou bien est-ce qu'ils s'en tenaient à une certaine distance polie?
Alors, celui qui compte, c'est Broca, en fait, dans le dispositif, parce que Broca occupe toutes les positions dans l'université, mais aussi les positions politiques, et puis dans les sociétés savantes. Donc, c'est vraiment la pièce maîtresse. Ils n'ont jamais réussi à le convaincre véritablement à rejoindre ce groupe. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de carte d'adhérent, mm-hmm. mais à le rejoindre dans les lieux, dans les points d'ancrage que j'ai évoqués. Le magistère de Broca n'a pas besoin d'aller frayer de ce côté-là. En revanche, lui, à titre personnel, est proche d'eux. Il est intellectuellement, philosophiquement, assez proche d'eux. Mais il est très au-dessus. C'est-à-dire que globalement, cette population, ces médecins, sont des gens sans aucun doute de valeur, mais d'un niveau très inférieur. Ils occupent des places importantes. Ils seront très fiers lorsque l'un d'entre eux, Mathias Duval, obtiendra enfin une chaire à la faculté de médecine. Mais c'est une chaire qui est créée par la municipalité, que eux-mêmes tiennent au même moment. Donc c'est pas vraiment une reconnaissance académique par l'université. Broca, c'est vraiment une belle prise pour eux, ils auraient bien aimé, mais non, ils n'ont pas pu.
Alors on le disait, les résultats sont évidemment et très rapidement médiocres. Le cerveau d'un grand homme ne diffère pas du cerveau d'une femme, comme il le disait dans l'archive, avec une déception toute misogyne très propre à cette époque aussi. Qu'est-ce qu'il leur reste une fois qu'ils ont fait le constat que leur approche n'apportait pas de résultats intéressants, et sur quel terrain finalement ils se déportent?
J'ai pas trouvé un écrit comme dans lequel ils expliquent que finalement d'accord. leur travail est vain.
Oui. Ils sont fiers et sans faire d'une
oui,
certaine façon.
En revanche, et là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire on constate que finalement il n'y a plus de publication des autopsies. C'est de mon point de vue, c'est quand même un signe que il n'y a pas grand-chose à dire des autopsies suivantes. C'est donc dire que scientifiquement ça n'apporte pas grand-chose. En revanche, ils vont, comme je vous le disais tout à l'heure, continuer à mettre en avant ces fameux bocaux dans lesquels il y a des cerveaux et les quelques noms qui y sont attachés. Mais même ça, il est difficile de savoir parmi tous les fondateurs, les 21 fondateurs, il y en a 7 sur lesquels on a vraiment des doutes sur le fait qu'ils aient été eux-mêmes autopsiés.
Mmh. Donc finalement, ils n'ont pas été totalement au bout avec avec cette pratique de l'autopsie. Est-ce qu'on peut dire que cette société qui dure quand même de 1876 à 1914, et puis vous le disiez tout à l'heure, en 1930, il y a encore des gens qui font le testament à cette société-là, elle dure quand même relativement longtemps. Comment expliquer cette longévité, cette durée de vie? Est-ce que c'est qu'ils ils existent aussi par finalement ce combat politique d'une certaine façon qu'ils mènent matérialiste, scientifique à nouveau contre la religion?
Alors au début c'est certain. C'est certain. Et en revanche, au tournant vers le XXe siècle, on a vraiment une population tout à fait différente. En fait, c'est tout un chacun qui pense que, en donnant son corps, on accomplit un acte utile, pas utile dans un combat philosophique ou politique, mais utile pour la science, pour la connaissance. Donc, on a une autre population. Mais c'est parce que tous les animateurs eux-mêmes sont morts ou en passe ou très âgés. Et puis il y a une donnée que je n'ai pas soulignée qui est le problème avec les familles, en fait. Les familles sont vraiment un obstacle.
Récalcitrantes.
Oui, c'est un obstacle lorsqu'il faut faire un testament pour donner son corps et puis ensuite pour récupérer le corps. On a un cas qui est tout à fait extrême, au contraire, c'est Eugène Véron. Et qui décède au Sable d'Olonne et est mis dans la fosse commune. Et il va falloir presque 10 ans pour que sa femme obtienne l'autorisation d'exhumer le corps pour pouvoir donner, parce que lui, il avait décidé de donner tout son squelette à la société d'autopsie mutuelle. Et donc, il y a 2 squelettes. Il y a celui d'Adolphe Bertillon et celui d'Eugène Véron qui ont été donnés. Et vous voyez, au contraire, là, c'est une famille qui milite, elle aussi, mais parce que sa femme est très engagée d'un point de vue philosophique également.
On le disait, donc, cette société d'autopsie mutuelle prend fin en 1914. Est-ce que c'est la Première Guerre mondiale qui met fin à cette aventure, ou bien est-ce que c'est qu'ils ont touché le bout, finalement?
Oui, non, enfin, le club s'est éteint tout seul. Il n'y avait plus personne. Il y avait plus de...
Ils étaient tous morts.
Oui, ils étaient tous morts et puis il fallait autre chose. C'est-à-dire que il fallait l'étincelle politique, philosophique du début. La Troisième République, on n'est plus du tout dans le même contexte. Ça n'a plus rien à voir. Et il faut une autre motivation. Et donc cette autre motivation, ça va être le progrès scientifique, enfin plutôt le progrès médical. Enfin.
Et pour conclure cette émission, Arnaud Hurel, j'aimerais quand même qu'on ne discrédite pas jusqu'au bout cette société d'autopsie mutuelle, ou en tout cas qu'on ne la regarde pas qu'avec un regard critique. Elle nous a légué quelque chose d'assez étonnant, c'est le don du corps à la science et l'enterrement civil, vous le disiez.
Exactement, en fait. Elle s'insère dans les débats qui ont lieu au Parlement pour les funérailles civiles, mais aussi pour le don du corps à la science. Gabriel de Mortillet, donc le grand préhistorien, qui lui-même a fait don de son corps à la Société d'autopsie mutuelle, lorsqu'il est député, dépose avec Yves Guyot, futur ministre des Travaux publics, dépose un amendement pour pouvoir donner son corps à la science, parce qu'il y a une ambiguïté juridique. En fait, de 1876 à 1886, la Société d'autopsie mutuelle a gardé tout ou partie de corps humains, sans avoir le droit de le faire. On n'avait pas le droit d'avoir ce type de restes humains dans des collections.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Arnaud Hurel, d'être venu nous raconter cette histoire. Je crois que vous êtes en train de préparer un petit texte, article, ouvrage sur la question. Donc si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, restez attentifs aux publications d'Arnaud Hurel. Merci encore.
Felt a funeral in my brain, and mourners to and fro. Treading, treading till it seems the sense was breaking through. And when we all were seated, the service like a drum beating, beating till I thought my mind was going numb. My mind was growing. And then I heard them lift a box and creep across my soul with the same boots of lead again. And space, space began to talk.
I Felt a Funeral in My Brain par Andrew Bird sur France Culture. Et Science Chrono continue. Après avoir parlé d'histoire des sciences, il est temps de parler archéologie. On s'envole pour l'Amérique centrale, pour la forêt dense et les cités perdues.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Palenque, Chichen Itza, Tikal, ces noms de cités mayas abandonnées continuent d'alimenter notre fascination pour un monde perdu qui se serait définitivement effondré, emportant avec lui le secret d'une civilisation à tout jamais effacée. Pourtant, et c'est l'idée que défend notre invité du jour, les mayas n'ont pas disparu. Avec aujourd'hui plus de 6 millions de personnes qui parlent une langue maya dans le monde, cette culture est toujours bien vivante malgré les assauts subis depuis l'invasion espagnole. Pour quelles raisons les vestiges mayas et l'idée de l'effondrement associé continuent-ils de nous fasciner? Comment s'est construit ce mythe d'une disparition des Mayas? En quoi l'archéologie et l'histoire peuvent-elles nous aider à comprendre cette légende tout en nous en détachant, pour nous rapprocher d'une culture bien réelle, passée et présente? Pour répondre à ces questions, nous n'avons malheureusement pas 15 jours, mais une demi-heure d'antenne, et c'est le défi que nous allons essayer de relever ensemble. Chloé Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, chercheuse CNRS au sein de l'unité archéologie des Amériques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous venez tout juste de publier le livre « Les Mayas n'ont pas disparu » chez Alary Éditions. Mille merci de venir nous aider à dissiper les brumes qui enveloppent ces temples mayas, mais qui enveloppent aussi la civilisation qui les a bâtis et qu'on présente souvent comme l'archétype de l'effondrement des sociétés. On va réfléchir, grâce à votre travail d'archéologue spécialiste des Mayas, à cette fascination que provoquent encore aujourd'hui ces cités perdues, et on va essayer de voir au-delà du mythe en expliquant finalement comment il s'est fabriqué. Pour commencer, j'aimerais qu'on ancre notre discussion dans l'espace et dans le temps. Dans quelle région du monde se situe-t-on quand on parle de Maya, et quels pays sont concernés actuellement par cette culture?
L'ère Maya désigne une entité géographique, culturelle, linguistique qui se trouve dans l'actuel sud du Mexique, le Belize, le Guatemala et le Honduras. C'est une région dans laquelle, entre 250 et 950, se sont développées des petites cités-états, des petits royaumes qui étaient indépendants, qui se faisaient la guerre ou qui s'alliaient selon les circonstances, et qui ont construit les fameuses cités aujourd'hui dans la jungle qui font rêver tellement de monde. Mais même si c'est souvent le moment de l'histoire maya que l'on retient le plus, ça ne représente en fait qu'un tout petit bout d'une longue histoire qui commence en 1000 avant Jésus-Christ et qui continue encore aujourd'hui, puisque plus de 6 millions de personnes parlent des langues mayas actuellement.
Alors on parle de 250-950, ces bornes chronologiques, elles définissent finalement l'âge classique de la civilisation maya. Si on doit décrire l'organisation de cette ère culturelle, géographique, est-ce qu'il y avait un réseau urbain dense? À quoi ressemblait finalement l'organisation de cette région du monde?
Donc cette période qu'on appelle classique, c'est effectivement donc la plus connue, la plus étudiée, celle qui a fasciné le plus. Donc il faut savoir d'abord qu'on divise l'ère Maya en deux grandes zones géographiques et culturelles, qui sont les hautes terres, qui correspondent à la zone montagneuse au sud, et les basses terres, qui sont subtropicales, humides. Et que c'est à l'époque classique, c'est surtout dans les basses terres que se sont développés ces réseaux assez denses de petites villes, qui étaient organisées autour d'un centre civico-cérémoniel. Et qui avait la particularité d'avoir une écriture, donc par laquelle on a une information extrêmement riche, puisqu'on sait la déchiffrer depuis les années 50, et grâce à laquelle on sait donc, on connaît assez bien ce qu'on pourrait appeler la géopolitique de l'époque. On connaît les victoires, les défaites, on connaît les mariages, les mariages royaux évidemment, le nom de chaque cité. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas par l'écriture, puisque surtout des textes monumentaux, donc qui nous donnent un type de discours. Et le reste, on le sait par la fouille. C'est par la fouille que l'on sait que ces villes étaient densément peuplées, qu'elles regroupaient parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes. Que pour les nourrir, ces dizaines de milliers de personnes, ces sociétés avaient développé un système d'agriculture de champs surélevés. Donc ils drainaient des marécages pour essayer de tirer profit de la richesse de ces terres quand elles n'étaient pas inondées. On sait aussi que l'opposition que l'on fait souvent entre urbain et rural, ici en tout cas, n'était pas si valable que ça à l'époque, puisque à l'intérieur même des cités, il y avait des zones cultivées.
Espèce de cité-jardin, d'une certaine
voilà,
façon.
Voilà, ça a été une expression qui a été employée, effectivement. Et puis, c'est une époque pour laquelle, de manière générale, la culture matérielle est particulièrement fastueuse. Chaque cour royale avait des artistes qui parfois signaient de leur propre nom et qui produisaient des bas-reliefs, des peintures d'une grande beauté. Donc tout ça a fait qu'on a appelé cette période à époque classique, ce qui veut dire qu'on l'a placée au cœur de la chronologie, qu'on l'a constituée comme une période d'apogée après laquelle ne pouvait venir qu'une époque de dégradation, le post-classique.
De déclin. Donc, si on se concentre sur ces édifices qui nous marquent tant, qui marquent tant notre imaginaire de ces temples, etc., alors peut-être la raison d'être de ces bâtiments, quelle est-elle? À quoi servait ces temples et ces pyramides?
Alors, il y a tout un tas de fonctions différentes au cœur de ces centres qu'on appelle civico-cérémoniels. Certains sont des palais royaux, donc ils hébergent le roi, l'administration et les réceptions publiques. D'autres sont des temples pour prier les dieux. Et puis certains aussi sont des lieux funéraires exclusivement pour la royauté ou les membres de l'élite.
Alors, on parle de ces temples et de l'âge classique. On a défini voilà cette fin vers 950. Que se passe-t-il pour que ces temples soient abandonnés et qu'on ait l'impression qu'ils aient été vidés en urgence?
Alors, ces sociétés traversent une crise assez terrible autour du 9e siècle. Une crise dont on sait maintenant qu'elle est due à des causes environnementales, en partie, puisque les études archéo-environnementales ont montré qu'il y a une série de sécheresses courtes et répétées à partir du début du 9e siècle, qui ont dû considérablement les fragiliser. C'est sans doute pas la seule raison, puisque par l'épigraphie, on sait aussi qu'il y a une nette augmentation des guerres et des conflits dès le 8e siècle, qui a dû aussi les fragiliser beaucoup. Et puis il y a peut-être aussi des raisons plus structurelles, puisque c'est des systèmes politiques qui reposaient sur une sorte de course en avant permanente de manifestations de prestige, donc de construction royale et de guerre aussi, pour sans cesse réasseoir le pouvoir du roi et le montrer. Et on peut se demander dans quelle mesure ces petits systèmes ne portaient pas aussi en eux leur propre fin et ne se sont pas essoufflés dans cette espèce de course en avant à toujours devoir réasseoir un pouvoir en fait fragile.
Finalement, Chloé Andrieux, ces temples et ces lieux très très impressionnants pourraient être ces marques d'ostentation finalement architecturales, pourraient être le signe d'une fragilité en germe.
Inhérente, oui, c'est une hypothèse, mais elle a l'intérêt de nuancer l'hypothèse qui consiste à considérer que ce n'était uniquement que des causes environnementales.
Alors cet abandon des cités mayas, est-ce qu'il a été rapide ou bien est-ce qu'on a trouvé des traces d'un abandon plutôt lent et organisé?
Alors c'est un abandon qui suit des rythmes assez différents en fait d'une région à l'autre. Il s'étend, mais si on prend la totalité du phénomène, il s'étend sur 150 ans, avec donc des rythmes distincts. De manière générale, ce que l'on observe, c'est que les structures de pouvoir sont abandonnées en premier, mais que les gens sont restés, même après que les palais royaux aient été délaissés, en tout cas dans certains lieux. Et puis, à leur tour, ils sont partis. Ils sont partis non sans avoir, dans bien des cas, effectué des rituels que l'on trouve en fouille. Preuve qu'ils ne sont pas toujours partis donc à la hâte.
Des rituels de clôture.
Des rituels de clôture, des offrandes sur les marches que l'on trouve assez fréquemment. Et finalement, autour de 950 000, la majorité des basses terres centrales, de la région centrale, avaient été effectivement délaissées. Mais pour autant, les gens n'ont pas disparu.
C'est pas la série The Leftovers où tout au lendemain les gens disparaissent, oui.
Ils n'ont pas disparu, ils ont migré, ils sont partis dans l'arrière-pays, ou ils sont partis vers le nord et le sud de ce même territoire maya, où d'autres royaumes ont été fondés et qui certains ont prospéré jusqu'à la conquête espagnole.
Alors ce qui est intéressant, tout à l'heure vous parliez de l'ère préclassique, qui elle-même avait connu cette forme d'effondrement, si on va employer ce mot et on le définira un peu tout à l'heure, mais pourquoi l'effondrement de l'âge classique nous intéresse plus et nous impressionne plus que l'effondrement de l'âge préclassique?
C'est une excellente question, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu qu'un seul effondrement dans l'ère maya, il y en a eu un premier autour du IIe siècle. L'âge classique, c'est une période assez longue qui commence en 1000 avant Jésus-Christ, à une époque où c'était peut-être plutôt des villages. Progressivement, se sont constitués des premiers centres cérémoniels qui attiraient probablement des populations qui n'y restaient pas tout le temps, en tout cas c'est l'hypothèse. Et puis avec le temps, à force de personnes, ces centres se sont constitués en villes. En ville pour certaines, des villes pour certaines assez importantes et qui ont développé des pouvoirs assez centralisés, voire plus peut-être qu'aux époques postérieures. C'est en tout cas le cas de celle d'El Mirador, dans les basses terres centrales. Et puis, soudainement, en tout cas pour ce qu'on en sait, autour de 150, la plupart de ces villes du préclassique ont été abandonnées. On ne se l'explique pas encore très bien. On a encore invoqué des causes environnementales, mais c'est encore débattu.
Alors on va parler de cet effondrement auquel vous consacrez une bonne partie de votre livre « Les Mayas n'ont pas disparu », Chloé Andrieux, et ce livre est vraiment passionnant, donc je vous invite à le lire. Peut-être qu'on peut poser une question déjà d'emblée, est-ce qu'il y a une réalité historique à cet effondrement? Est-ce qu'on peut parler d'effondrement pour les cités mayas si on vient à cet âge classique?
Oui, tout dépend de la façon dont on définit un terme. Si on définit, c'est la définition habituelle, c'est qu'un effondrement, c'est une perte rapide de complexité sociale qui s'accompagne d'une baisse démographique soudaine. Donc avec cette définition-là, elle s'applique effectivement tout à fait aux événements du 9e siècle et du 2e siècle aussi. Le problème, c'est pas tant ce terme technique-là utilisé pour définir une période donnée à un moment donné, c'est plutôt la manière avec laquelle il a été médiatisé et généralisé par des auteurs comme Jared Diamond dans son livre « Effondrement ». Qui est vraiment un livre qui a eu énormément de succès et qui a contribué à populariser cette idée selon laquelle l'étude comparative des effondrements un peu partout dans le monde et à travers l'histoire permettrait de dégager des espèces de règles qui permettraient à leur tour de comprendre ou d'envisager ce avenir. Or, dans cette réflexion, Jared Diamond a instituer l'effondrement maya en effondrement type, puisque c'est son expression. Et dans le même mouvement, il a propagé un scénario dans lequel la chute des structures politiques, puisque c'est de ça qu'il s'est agi, s'était accompagnée d'une disparition culturelle, pratiquement. Il nuance un peu, mais c'est presque ce qu'il dit. Donc finalement, c'est dans ce mouvement de généralisation d'un terme technique à un terme apporté presque universel, que les Mayas ont été rayés de la carte en un trait de plume.
Et les Mayas ont disparu malgré eux. Alors à quoi tient, peut-être une question un peu vaste qui mériterait peut-être une thèse à elle seule, mais à quoi tient la fascination occidentale pour l'effondrement? Est-ce qu'on a ça, nous, dans nos cultures, cette envie, ce besoin de voir les civilisations s'effondrer?
Alors, je peux répondre que pour les effondrements passés, puisqu'il y a tout un discours sur ceux à venir pour lesquels j'ai absolument aucune autorité
en tant qu'archéologue.
Voilà, donc je précise. Mais cette fascination pour les effondrements du passé, je pense qu'elle tient en grande partie au fait qu'on a encore une vision très évolutionniste de ce que serait la trajectoire des sociétés, comme si elle tendait naturellement vers toujours plus de centralisation, vers plus de hiérarchisation sociale. Et c'est cette vision-là qui nous fait voir les effondrements comme des sortes d'anomalies terribles, dramatiques, qui viendraient interrompre une progression qu'on pense toujours comme linéaire vers, et inéluctable surtout, vers toujours plus d'États. Alors qu'en fait, quand on regarde à travers l'histoire, ces effondrements sont assez communs, et en tout cas assez courants chez ces premières structures étatiques, ne serait-ce que dans l'ère Maya. Sur 1000 ans, on en a deux. Et ce qui est intéressant, c'est que celui du IIe siècle n'a l'air d'émouvoir personne, alors que tout le monde se focalise sur celui du IXe siècle. Donc il faudrait aussi se demander pourquoi certains effondrements fascinent plus plus que d'autres.
Les Espagnols envahissent autour de 1500 cette ère culturelle maya. Que s'est-il passé entre cet effondrement autour de l'an 1000 et 1500? Comment la culture maya a-t-elle continué à se développer? Si on doit présenter succinctement ces 5 siècles, c'est colossal. Mais
alors même, ça fait beaucoup en
c'est
peu de mots.
Je suis désolé.
D'autant qu'il y a plusieurs régions, parce que ça se fractionne énormément. Mais pour aller très vite, en gros, le pouvoir royal, la grande différence, c'est que le pouvoir royal semble perdre totalement la puissance qu'il avait à l'époque précédente. On le voit même sémantiquement, le titre Curularao, qui voulait littéralement dire roi sacré, disparaît au profit de, dans le nord, Halachwinik, qui veut dire l'homme véritable. Donc on voit vraiment qu'on a affaire à des sociétés où le pouvoir est peut-être davantage partagé avec des chefs de lignage. Dans les hautes terres du Guatemala, on a affaire à des royaumes très guerriers, avec des systèmes de places fortifiées, les royaumes Cachiquel, Quiché, et Kekchi, notamment, qui sont ceux, d'ailleurs, que les Espagnols ont combattus, ou avec lesquels ils se sont alliés dans ce long processus qu'a été la conquête.
Quand les Espagnols envahissent du coup cette partie du sud de l'Amérique centrale, ils tombent sur ces ruines, sur ces temples abandonnés déjà, qui sont déjà en ruine. Est-ce qu'ils en font cas? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce qu'ils écrivent dessus?
Déjà, en fait, ces ruines, elles ont jamais été perdues. On peut dire que les populations locales, elles les ont toujours connues, même si elles n'ont pas réhabité les sites. Elles ont toujours traversé. Elles ont même pratiqué des rituels, puisqu'on a des traces d'encensoirs dans beaucoup d'édifices en ruines, donc qui montrent bien qu'ils sont postérieurs à leur abandon. Les Espagnols, ils connaissaient certaines villes, oui, ils connaissaient déjà en premier lieu, évidemment, celles qu'ils avaient contribué à détruire. Et puis, ils en connaissaient aussi d'autres qui avaient été abandonnées bien avant. En 1566, par exemple, l'évêque du Yucatan, qui s'appelle Diego de Landa, publie un traité dans lequel il donne la description assez précise de certaines d'entre elles, dont Chichen Itza. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les basses terres centrales étaient à l'époque de la colonie recouvertes de forêts. C'était une zone de résistance à l'ordre colonial où les populations locales s'enfuyaient pour éviter le joug colonial. C'était une zone de refuge
et pendant
jusqu'au 18e siècle, jusqu'au le dernier état maya rend les armes dans cette région-là en particulier en 1697. Donc c'est très tard. Et ça explique sans doute le fait qu'il faut attendre le 18e siècle pour que la nouvelle de vestiges dans cette région-là en particulier remonte aux autorités locales. Et même là, les Espagnols s'y intéressent, mais ça c'est plutôt de l'ordre du secret d'État. C'est-à-dire que la vice-royauté y envoie des séries d'expéditions militaires qui en font des rapports détaillés, mais ce ne sont pas des rapports qui étaient destinés à être divulgués au public, loin de là.
Comment interpréter ce secret d'État autour de cette preuve, malgré tout, d'une grandeur passée ?
Précisément, parce que politiquement, ce n'était pas du tout dans l'intérêt de la vice-royauté de rappeler un peu trop aux populations locales les ruines de leur passé.
Alors, dans votre livre, vous rappelez un chiffre édifiant. En 1500, il y a 22 millions de Mayas. En 1550, il n'y a plus que 3 millions de Mayas. Comment cette culture reste, persiste, résiste d'une certaine façon et se transmet dans ce contexte colonial? Est-ce que les Mayas continuent, par exemple, de fréquenter ces cités abandonnées, ces temples abandonnés?
Alors là, on a très peu de données, donc c'est assez difficile de répondre. Donc, ce que l'on sait, c'est que cette chute terrible de la démographie suite à la conquête, elle est due évidemment au massacre, au mauvais traitement, mais aussi en très grande partie aux épidémies. Et elle fait qu'assez tôt, les autorités coloniales sont confrontées bêtement à un problème de main-d'œuvre. Donc il n'était pas dans leur intérêt d'en venir à bout totalement. Et elles ont mis sur pied un système de juridiction particulière qui était destiné aux gens que l'on appelait dorénavant indiens, terme extrêmement malvenu, mais qui a perduré, et qui, tout en les mettant au banc de la société, leur attribuait un régime juridique spécial qu'on appelle les Republicas de Indios, qui leur octroyait une certaine autonomie et surtout des terres communales. Et donc ce régime spécial, il a permis quand même de maintenir une certaine continuité linguistique, une continuité de pratique, et aussi il a été l'espace de nouveaux syncrétismes, puisque ces sociétés ont été très tôt catholicisées.
Tout à l'heure, vous parliez de ce ce livre Jared Diamond, donc Effondrement, qui est paru au milieu des en 2006, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais cette fascination, en tout cas, pour les cités mayas, les temples mayas abandonnés, elle remonte à longtemps. À partir de quand on s'est mis à redécouvrir, entre guillemets, ces temples-là, et qui a été moteur dans cette redécouverte de ces cités perdues?
Alors, dans les années 1820 que certains de ces rapports de ces expéditions militaires qui avaient été commandités quelques années plus tôt sont traduits en anglais, en espagnol, en français, pardon, et publiés en Europe. Et là, ils font beaucoup de bruit, puisque d'un seul coup, l'Europe découvre qu'il y avait eu des villes sur ce continent, des villes avec une écriture en plus. C'est une nouvelle, ça fait l'effet d'une grande nouvelle parce que la ville à l'époque était vraiment considérée comme le symbole même de la civilisation et il se trouve que l'Amérique était pensée comme étant le continent d'avant la civilisation. Donc ça représentait une espèce d'antinomie qui a littéralement fasciné tout le monde et qui a provoqué un très grand nombre de débats. Des débats qui se sont d'ailleurs surtout concentrés autour de la question à l'époque du peuplement de l'Amérique.
Qui avait construit, voilà. C'est ça la vraie question pour les Occidentaux, parce que c'était inenvisageable que des peuples autochtones aient construit
ça. Voilà, mais c'est qui avait construit ça et surtout d'où venait-il et comment était-il arrivé là, puisque c'était pour eux nécessairement une culture de l'ancien monde qui était venue propager la civilisation avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et donc dans le cadre de ces débats, ces savants ont mobilisé les récits culturellement disponibles, notamment celui de l'Atlantide, puisque Platon avait dit qu'il y avait une île de la taille d'un continent au milieu de l'océan Atlantique. Et beaucoup ont suggéré que cette île-continent avait pu servir de relais dans un trajet que personne n'estimait envisageable avec les moyens techniques d'avant Christophe Colomb.
On parle aussi des 10 tribus perdues d'Israël qui auraient colonisé l'Amérique et donc qui, du coup, auraient construit, en tout cas, auraient donné lieu à ces civilisations qui ont bâti ces temples. C'est intéressant de se dire que les Occidentaux n'imaginent pas que d'autres personnes que des Occidentaux aient pu construire ces temples-là. Il y a aussi, à ce moment-là, quelque chose que je trouve particulièrement intéressant et que vous soulignez bien dans votre livre, c'est la fascination qu'exercent quand même ces temples à deux points de vue. D'un point de vue quasiment mystique, chez un chanoine que vous présentez, qui s'appelle Ramón de Ordóñez y Aguilar, qui lui va être un peu subjugué quand même par tout ça. Il va essayer de composer une espèce de cosmogonie à sa sauce. Et puis, il y a une figure aussi qui émerge plus tardivement au XIXe siècle, c'est la figure de l'explorateur, qui lui doit, pour exister publiquement, faire des découvertes. Et donc là, il y a toute une mise en scène de soi dans ces ruines-là. Expliquez-nous l'importance de ces deux figures et de ces deux approches concernant ces temples.
Elles se sont tout de suite accrochées à une idée de mystère, de découverte. Assez tôt, elles ont été mises en avant comme une sorte de paradis perdu, je pense. Et elles ont été finalement inventées dans cette figure de l'explorateur qui naît au 19e siècle, puisque par exemple ces militaires à l'époque précédente, ils revendiquaient jamais d'être les premiers à arriver sur place ou d'être même des explorateurs, alors que ce qu'ils faisaient techniquement c'était d'explorer. Donc il y a vraiment une figure qui apparaît au 19e siècle qui dans le cas maya est vraiment initiée par un concours, le concours Palenque. C'est la société de géographie qui propose 2400 francs pour attirer les explorateurs et pour qu'ils leur ramènent des rapports pour essayer de comprendre d'où venait cette ville et qui l'avait habitée. Et c'est effectivement à ce moment-là que se génère cette figure de gens qui découvrent et qui surtout se décrivent découvrant et qui en même temps créent le mystère autour de ces ruines de façon à rendre leur découverte encore plus chatoyante encore.
Alors le concours Palenque que vous évoquez à l'instant, y a Jean-Frédéric Valdec qui est un explorateur justement qui a une vie incroyable et qui va lui passer quasiment un an et demi, si je dis pas de bêtises, dans les ruines de Palenque et vivre là et tout dessiner et tout recenser avec parfois des erreurs. Il y voit des éléphants indiens parce que à l'époque il y avait encore cette confusion. Quelle importance a ce genre de relevé justement pour la fabrication d'un mythe d'une civilisation disparue ?
En fait, elle a à la fois cristallisé les conceptions de l'époque, puisque il les a vues à travers ce qu'il pensait y trouver. Donc, comme il était persuadé, alors il a eu plusieurs hypothèses, hein, mais il est connu pour cette hypothèse asiatique. Mais ces hypothèses réapparaissent dans la manière avec laquelle il a perçu ses dessins.
Et la question, c'était de savoir comment finalement ces explorateurs fabriquent ce mythe de la civilisation perdue. En tout cas. Accentue et initie peut-être une fascination pour le mythe de l'effondrement des Mayas.
Ils ont peut-être pas tant l'effondrement, mais ils y ont accroché toutes leurs représentations de l'époque et ils les ont fait transparaître dans les représentations qu'ils ont ensuite copiées d'un explorateur à l'autre, toujours en disant qu'ils étaient arrivés les premiers. Il y a une espèce de chaîne de récits et chaîne de représentations visuelles qui se sédimente à ce moment-là et qui va ensuite perdurer jusqu'aujourd'hui. Et de la même manière, les rêveries qu'ils y accrochent, de mystères, d'Atlantide, voire de cités de tribus d'Israël s'y sont accrochés aussi et ont perduré même aujourd'hui finalement puisque même si évidemment la recherche archéologique contredit toutes ces hypothèses et ces rêveries du 19e on perçoit encore des traces de ces rêveries là dans l'imaginaire qui est encore associé aux Mayas et que l'on peut trouver, que ce soit dans la bande dessinée, les jeux vidéo, le cinéma, ou même une certaine vision un peu complotiste de l'histoire, qui ont justement pour un commun de reprendre ces ingrédients, notamment en tout cas l'Atlantide, et de reposer sur cette idée toujours selon laquelle les Mayas n'étaient pas une culture locale, et que donc, et qu'ils venaient d'ailleurs, et qui donc contribuent à nier encore une fois le lien avec les populations actuelles.
J'évoquais au début de l'émission, Chloé Andrieux, les nombreux assauts subis par les cultures mayas. Alors il y a bien sûr l'invasion espagnole, mais après il y a la période d'indépendance qui elle aussi va rebattre les cartes et va essayer de, non pas gommer ce passé, mais en tout cas de pas le revendiquer. Comment on peut expliquer finalement ces assauts qu'ont subis cette culture jusqu'au XXe siècle?
C'est en fait à partir du XIXe siècle, ces vestiges commencent à devenir un symbole de grandeur étatique antérieure à l'invasion européenne. Et à ce titre-là, quand les nations mexicaines et guatémaltèques deviennent indépendantes de l'Espagne en 1821, elles construisent leurs récits nationaux en se fondant dessus, puisque ça leur permet de faire une continuité étatique totalement indépendante de l'Europe. De manière intéressante, c'est aussi ce que fait les États-Unis pratiquement au même moment. Dans le cadre de la doctrine Monroe, donc une doctrine d'affaires étrangères qu'on peut résumer comme étant l'Europe aux Européens et l'Amérique aux Nord-Américains, ils y voient dans ces vestiges une sorte de capital culturel qui leur permet de s'ériger en protecteur d'un passé pan-américain, glorieux et encore une fois indépendant de l'Europe. Donc il y a toujours une sorte de valorisation étatique de ces vestiges qui a été de pair avec un mépris et pour le moins des populations qui en descendaient et qui a été de pair avec un discours qui leur reprochait d'être restés dans le passé, figés dans ce passé-là justement et d'être un frein au progrès.
Alors, je parlais du XXe siècle aussi, la période des coups d'État, notamment au Guatemala, où là, on va s'en prendre très fort aux indigènes, aux populations mayas, en voulant finalement soit les assimiler de force, soit les faire disparaître. Ça vaudrait le coup de faire une émission entière aussi sur l'histoire de ces coups d'État fomentés notamment par la CIA. Si on en vient au cœur de notre émission, enfin, on n'en vient pas au cœur de notre émission, puisqu'elle arrive bientôt à son terme, mais quelle archéologie bien vivante aujourd'hui des mayas nous permet de mettre de côté ce mythe et cette légende de la disparition de la civilisation pour, au contraire, nous apprendre à mieux la connaître.
Je pense que ce que l'archéologie peut faire aujourd'hui, c'est montrer en l'étudiant que la rupture, les crises qu'ont subi ces sociétés au IXe siècle n'ont pas entraîné de disparition culturelle. Et elle peut le faire très pratiquement, notamment en étudiant les mouvements de population qui ont fait suite à cet abandon de cité, notamment par exemple en travaillant sur la région des Hautes-Terres qui est beaucoup moins étudiée d'un point de vue archéologique et qui est pourtant la partie qui était la plus densément peuplée à l'arrivée des Espagnols.
Merci beaucoup Chloé Andrieux, désolé, on arrive déjà au terme de cette émission. Les Mayas n'ont pas disparu, c'est paru aux éditions Alary. Merci infiniment d'être venu dans cette émission. L'entretien archéologique et Sciences Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INRA. Elina. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Sciences Chrono.